Bonsoir. Vers une augmentation générale des salaires de tous les soignants, un premier projet d'accord se dessine au Ségur de la Santé. Projet qui prévoit la revalorisation identique pour 1 million d'agents de la fonction publique hospitalière à compter du 1er juillet. Dernier détail à régler, le montant de l'enveloppe. 150 propositions moins une pour le climat. La Convention citoyenne a voté la liste des mesures qu'elle remettra demain au gouvernement. Seule la réduction du temps de travail à 28 heures par semaine n'a finalement pas été adoptée. Dans ce journal également, un déconfinement trop strict pour les supporters de foot. Ils pourront retourner au stade à partir du 11 juillet en nombre limité, pas plus de 5000. Inconcevable pour eux, notamment pour la finale de la Coupe de France au Stade de France fin juillet. Et comme eux, le président de la fédération, Noël Le Graët, demande au gouvernement de revoir sa copie. Le premier meeting depuis 3 mois pour Donald Trump en un lieu pas très bien choisi, à Tulsa dans l'Oklahoma, où fut perpétré un massacre contre les Noirs en 1921. Un MOOC sur les smartphones, c'est à suivre sur le net, et c'est La Vie Connectée, signée ce soir par Louis-Valentin Lopez. Enfin, le temps pluvieux dans le quart nord-ouest, demain du soleil dans l'est et le sud, et puis bien sûr, dans le téléphone sonne, juste après ce journal, Pierre Veil, on parle des difficultés de la presse.
Oui, question sur la presse écrite, mais aussi tous les médias laminés économiquement par la crise du Covid-19, des ventes papier en chute libre, de nombreux journaux avec des plans sociaux, les syndicats parlent de casse sociale. Comment la presse, qui était déjà avant la crise en pleine mutation, comment peut-elle s'en sortir? Vos appels 01 45 24 7000, vos mails sur franceinter.fr et bien sûr l'application France Inter.
France Inter.
Une augmentation générale des salaires pour tous les soignants hors médecins dès le 1er juillet. C'est donc le projet d'accord qui semble se dessiner au Ségur de la Santé. La concertation lancée fin mai par le ministre Olivier Véran devait aller vite et fort, selon ses propres termes. Ce qui semble être le cas, si l'on en croit les premières informations, 1 million d'agents de la fonction publique hospitalière devraient bénéficier à compter du 1er juillet d'une revalorisation identique. Manque encore un détail, Cécilia Arbona, le montant de l'enveloppe.
Et c'est pour ça qu'il est prématuré de parler ce soir de projet d'accord, même si la revendication essentielle des syndicats de récompenser chaque maillon de la chaîne de l'hôpital semble avoir été entendue et même actée. On parle d'une augmentation de salaire identique pour les titulaires, pour les contractuels et à tous les étages, les soignants bien sûr, mais aussi les autres, personnel administratif compris. Jean-Claude Stutz est secrétaire national adjoint de l'UNSA Santé. Il participe aux discussions.
Cette augmentation de traitement ne serait une réalité qu'à partir du début de l'année 2021. Il faut que la loi de finances de la sécurité sociale soit passée. Par contre, l'effet serait rétroactif et donc les arriérés de cette augmentation de salaire seraient versés. La date officielle qui a été évoquée, je dis bien évoquée, est celle du 1er juillet 2020.
Alors, une augmentation, oui, mais de combien exactement? L'UNSA Santé s'est fixé un minimum acceptable, 300 euros net par agent.
Aujourd'hui, nous n'avons aucun élément chiffré, nous n'avons pas le périmètre de l'enveloppe. Je suis optimiste parce que la volonté d'arriver à un accord semble être partagée par tous, mais on n'est pas à deux doigts de la signature.
Ce cadre de santé de Mulhouse attend la date de la prochaine réunion à laquelle va participer Olivier Véran, le ministre de la Santé. C'est une fois qu'on l'aura en face de nous, précise ce syndicaliste, que l'on pourra dire qu'on entre dans le dur des négociations.
Voilà, des mesures qui ne concernent pas les médecins, rappelons-le, ils sont engagés dans une négociation parallèle. Pendant ce temps, les 150 citoyens de la Convention sur le climat ont bouclé la liste de leurs propositions en les mettant au vote, une par une, et toutes ont été adoptée, sauf une, Célia Quiret.
Finalement, seule une mesure a été rejetée, la réduction du temps de travail à 28 heures par semaine. Pour la plupart des citoyens, cette mesure n'aurait pas eu beaucoup d'impact sur le climat et surtout, elle aurait discrédité le travail de la Convention. Pour certains, cela aurait été la goutte d'eau après les 110 km/h sur autoroute. Les citoyens soignent leur image et ils veulent montrer qu'ils ont respecté la feuille de route, réduire les gaz à effet de serre, mais également penser en permanence à la justice sociale. Exemple, la rénovation location des logements, si elle devient obligatoire, il faudra aider les propriétaires en fonction de leurs revenus. Si la voiture n'est plus la bienvenue dans les centres-villes, il faudra des transports publics massifs et gratuits. Si la vitesse est limitée sur autoroute, la convention prévoit également la baisse de la TVA sur le train ou un système de location de voitures longue durée. Sur l'alimentation, les agriculteurs devront être aidés pour supprimer les pesticides. Les entreprises, elles, devront également se verdir. Bref, c'est tout un ensemble de mesures qui est prévu et qui permettrait bien, selon les experts, de réduire de 40% les gaz à effet de serre. La mission est accomplie. Elle inspirera peut-être le nouveau chemin promis par Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron qui recevra les membres de cette convention citoyenne à l'Élysée le 29 juin en leur apportant une première réponse. Un pas de plus dans le déconfinement lundi, c'était déjà prévu pour les cinémas, mais avec eux pourront rouvrir aussi les centres de vacances, les casinos, les salles de jeux. Ainsi en a décidé le conseil de défense réuni dans la soirée d'hier, lequel a aussi autorisé la reprise des sports collectifs, le tout en respectant bien sûr les consignes sanitaires. Seuls les sports de combat restent interdits aux amateurs. Les professionnels peuvent reprendre l'entraînement. D'autres assouplissements, c'est le cas de le dire, interviendront le 11 juillet à la fin de l'état d'urgence. Les hippodromes et surtout les stades rouvriront leurs portes au public à condition cette fois de ne pas dépasser les 5000 personnes. Pour la reprise de la Ligue 1 fin août, les stades ne seront donc pas tout à fait vides, ce qui est de nature à rassurer en partie les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 d'ailleurs, sauf pour la finale de la Coupe de France prévue fin juillet au Stade de France, un stade qu'on aimerait des deux côtés voir un peu plus rempli, Amaya Cazenave.
Le match est programmé le vendredi 24 juillet au Stade de France, le Stade de France et ses 80 000 places assises qui sonneraient donc largement creux ce soir-là. Polo, membre du collectif Ultra Paris, trouve cette jauge totalement absurde.
C'est de la bêtise humaine. Autoriser juste 5 000 personnes, on va faire comment? Ils vont faire un tirage au sort? Non, il faut que le gouvernement prenne vraiment une décision à que tout le monde puisse aller au stade dans des mesures d'hygiène respectable, et puis voilà, mais on va pas limiter un nombre de personnes parce que forcément ça entraînera des jalousies.
Du côté des supporters stéphanois, on juge aussi ce chiffre insuffisant, mais certains préfèrent voir le verre à moitié plein. C'est le cas de Jean-Guy Rioux, le président de l'Union des supporters stéphanois, membre de l'instance nationale du supporterisme.
C'est une bonne chose, puisque si on revient quelques semaines en arrière, on parlait de matchs à huis clos, des affiches de supporters dans les stades ou des palliatifs pour nous supporters étaient complètement inconcevables. On revient de loin. Hein.
Et les supporters pourront compter sur un soutien de poids dans leur démarche, celui de Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, qui souhaite que cette finale se joue devant plus de 5000 personnes.
Ah oui, Noël Le Graët qui propose de calculer les spectateurs en pourcentage de la capacité totale du stade. En l'occurrence, le Stade de France peut accueillir 80 000 personnes. Il pourrait être rempli à 30 ou 40% si le gouvernement y consent. Même chose pour la Coupe de la Ligue entre Paris et Lyon, une semaine après, le 31 juillet. Parmi les mesures également précisées dans la soirée d'hier, la reprise des croisières fluviales, le 11 juillet, et des croisières maritimes internationales, peut-être en septembre. Les paquebots de luxe vont donc rester à quai tout l'été, comme le Celebrity Apex à Saint-Nazaire, qui n'a encore jamais navigué d'ailleurs. À peine sorti des chantiers navals, plus de 200 personnel de bord avait été testé positif avant d'être rapatrié. Le paquebot qui aurait pu quitter Saint-Nazaire n'a finalement pas bougé. Pour aller où, Mathilde Dehimi?
Le Celebrity Apex a été livré par les chantiers de Saint-Nazaire 15 jours après le début du confinement. Une livraison inédite car numérique. Depuis le 12 mai, la préfecture a autorisé le départ du paquebot de luxe, mais il est pourtant toujours amarré dans le port et il a même fallu évacuer au fur et à mesure la plupart des 1450 membres d'équipage ou sous-traitants en avion ou en bateau. Un autre navire de la flotte étant passé chercher fin mai une centaine de salariés indiens. Seules les 200 personnes essentielles à bord restent encore à quai, il n'y a plus de malades. Tout le monde commence à trouver le temps long. L'équipage qui voit de plus en plus s'éloigner la croisière inaugurale prévue au départ de Southampton en Angleterre, mais aussi les chantiers et le port qui aimeraient bien récupérer leur quai. L'armateur américain Royal Caribbean Cruises ne donne plus de nouvelles pour l'instant. Il faut dire que la période n'est plus vraiment aux croisières haut de gamme. L'armateur est l'un des plus gros clients des chantiers. Il y aura donc des négociations pour un départ au plus tard à la rentrée.
Et le Celebrity Apex qui peut accueillir 2900 passagers.
Yves Decamp, après le port de Saint-Nazaire, direction Le Havre.
Oui, rien à voir. C'est un après-midi de recueillement, cette fois, qu'avaient organisé les dockers du Havre. 6000 dockers venus de tout le pays pour rendre hommage à l'un des leurs, enlevé et tué le 12 juin à Montivilliers, non loin de là, sur un parking. Il avait été mis en examen il y a bientôt 2 ans dans une affaire de trafic de stupéfiants, une affaire toujours en instruction. Pour ses proches et ses collègues, c'était un homme aimé de tous. La Fédération Nationale des Ports et Docks, CGT, avait donc appelé à cesser le travail pendant 24 heures pour que jamais de tels actes ne se reproduisent contre un ouvrier docker. Théophile Pedrola, au Havre.
Au foyer des syndicats des dockers près du port du Havre, la foule est immense en ce début d'après-midi ensoleillé. En tête, la famille de la victime, en pleurs, qui porte une banderole noire, écrit en lettres blanches « L'insoutenable perte de notre colosse, Alan, un papa exemplaire, un homme aimé de tous. » Le cortège marche en silence vers le centre-ville, où reçoit les applaudissements des passants. Dans la foule, des dockers venus de Rouen, Paris et même Bordeaux. Sur le chemin du cortège, d'autres banderoles noires en hommage sont accrochées. Arrivé près de la plage, 3 kilomètres plus loin, sous l'arche des conteneurs, le cortège s'arrête et forme un cercle autour de la famille. Le père du docker assassiné prend la parole, remercie en larmes la foule qui répond en applaudissant. Après 1 minute de silence, les participants finissent par se disperser au son de la sonnerie aux morts, jouée par 10 de tambours.
À Lille, encore une statue dans le collimateur des manifestants, la statue du général Faidherbe, dont 200 à 300 personnes ont réclamé la tête, et le reste aussi. Faidherbe doit tomber pour les associations de défense de l'Afrique et des immigrés qui ne prônent pas l'action violente. Louis Faidherbe, c'est d'abord le colonisateur du Sénégal. Il doit être déboulonné pacifiquement et dans le consensus. Pour eux, la mairie doit retirer la statue et la mettre au musée. Plusieurs milliers de manifestants également à Paris pour la régularisation des sans-papiers. Parmi eux, beaucoup de Maliens soutenus par des associations qui réclament également la fermeture des centres de rétention administrative et un logement pour tous. Et puis à Dijon, la manifestation était interdite. 100 de personnes ont tenté de passer outre dans les rues de la ville en demandant la démission du préfet. Habitant du quartier des Grésilles, il reproche aux autorités de n'avoir pas réagi assez vite et fort aux expéditions punitives menées par la communauté tchétchène le week-end dernier. Ce que le préfet de région et de Côte d'Or conteste. 2 compagnies de CRS ont de nouveau été mobilisées pour éviter les débordements et bloquer les manifestants. Le procureur de Dijon, Éric Mattet, est également monté au créneau pour faire le point.
Ce à quoi nous avons assisté était tout à fait imprévisible et heureusement totalement inhabituel. Le procureur de la République que je suis ne peut être que choqué et préoccupé face à des affrontements communauté contre communauté sur fond de discrimination, voire de racisme. À ce jour, nous dénombrons 20 victimes physiques identifiées, dont certaines gravement blessées. J'ai du reste demandé à l'association France Victimes 21 d'intervenir spécifiquement auprès de chacune d'elles et une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en œuvre qui permette notamment l'écoute. Dans le cadre de cette enquête, 4 hommes ont été présentés ce matin tôt au tribunal et le parquet a requis leur mise en examen pour différentes infractions. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la peine encourue la plus grave est de 10 ans d'emprisonnement, peine maximum.
Le procureur de Dijon. À Foix, dans l'Ariège, ce sont les défenseurs de la réintroduction des ours dans les Pyrénées qui se sont rassemblés devant la préfecture en protestation contre la mort d'un ours de 4 ans tué le 9 juin dernier par arme à feu. Pour eux, le ou les coupables doivent être recherchés et sanctionnés. Les ours ne sont pas un problème, ils ont leur place dans les Pyrénées à côté des éleveurs.
À l'étranger, Yves Decamps, aux États-Unis, ce sera son premier meeting depuis 3 mois.
Et oui, le vrai début de sa campagne, comme il l'a dit lui-même dans un tweet, bien sûr, c'est le candidat Trump qui reprend du service sur le terrain ce soir à Tulsa, dans l'Oklahoma, un endroit pas spécialement bien choisi en pleine période de manifestation contre les violences policières et le racisme, alors que Tulsa se souvient d'un massacre des Noirs en 1921 et que la ville commémore Juneteenth, la fin de l'esclavage. Loïc Piala à Tulsa.
Un jour de fête, mais pas un jour férié. Pourtant, Juneteenth célèbre un moment majeur de l'histoire américaine, la fin de l'esclavage. C'est notre indépendance à nous, explique Jamal Robertson. On ne fête pas le 4 juillet. Le 4 juillet, nous n'étions pas libres, nous étions des esclaves. Dans le district de Greenwood, Juneteenth a une résonance particulière. En 1921, 2000 blancs en colère ont saccagé ce quartier noir alors riche et surnommé Black Wall Street. 300 noirs tués, oubliés des cours d'histoire. Ce n'est pas vraiment enseigné dans les écoles ici, regrette Delilah, la femme de Jamal. Peut-être plus dans les quartiers nord où a grandi mon mari, mais moi, je suis d'un quartier blanc à une heure d'ici et on n'en parle pas. Reconciliation Park commémore l'événement. Rocco Gilbert s'attarde devant la fontaine où une sculpture reproduit des scènes du massacre. Quand vous empêchez les gens de savoir d'où ils viennent, de connaître les succès qu'ont eu leurs familles, vous leur enlevez une partie de leur fierté, dit-il. Et c'est ce qu'ont vécu les Noirs dans l'Oklahoma. Personne n'a jamais été condamné pour ce qui s'est passé. La venue polémique de Donald Trump a au moins eu le mérite d'attirer l'attention sur Juneteenth et l'histoire de Tulsa. À Tulsa, Loïc Piala pour France Inter.
En Chine, c'était attendu, les taux se resserrent. Sur Hong Kong, inexorablement, les manifestations monstres de l'année dernière et les protestations qui restent vives n'y changent rien. Pékin poursuit sur la lancée de son projet de loi de sécurité nationale en donnant aujourd'hui les détails où peuvent se lire très clairement les intentions du régime. Angélique Forget, ce texte marquera la fin de l'autonomie de l'ancienne colonie britannique.
Ce texte de 66 articles entièrement rédigé par Pékin va considérablement réduire le degré d'autonomie dont jouissait Hong Kong depuis sa rétrocession en 1997. Le projet de loi prévoit notamment l'instauration d'un bureau de sécurité nationale à Hong Kong, un organe contrôlé par le pouvoir central et qui aura pour but de collecter des renseignements et de traiter les affaires qui portent atteinte à la sécurité nationale. Cette loi permettra de punir et de traiter comme criminels toutes les actions de sécession avec la Chine, la subversion, mais également les collusions avec des forces étrangères. Dit autrement, c'est la fin du principe « un pays, deux systèmes », c'est en tout cas ce qu'estime une grande partie de la communauté internationale. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont appelé Pékin il y a quelques jours à réexaminer sa décision. Les démocrates hongkongais voient aussi un moyen à court terme de disqualifier certains de leurs candidats avant les élections législatives de septembre prochain. Shanghai, Angélique Forget, France Inter.
Allez, nos téléphones portables, les aime-t-on un peu, beaucoup ou beaucoup trop? Combien de temps les utilisons-nous dans une journée? D'ailleurs, se souvient-on, pour les plus anciens d'entre nous, de ce qui les a précédés? Bonsoir Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir Yves.
Toutes ces questions sont évoquées dans un MOOC particulièrement drôle et instructif, un MOOC qui court en ce moment sur le net. C'est le sujet de la vie connectée cette semaine.
Et on commence par ce petit souvenir, années 70-80, très franco-français, écoutez. Le téléphone est indissociable, hein, de nos vies et de nos moments les plus intimes, même quand il était à cadran et faisait... Aïe. Souvenez-vous par exemple de cette conversation entre Jeanne Moreau et Maurice René, alias Florence et Julien, dans Ascenseur pour l'échafaud.
Je t'aime, je ne te quitterai pas, Julien. Tu sais que je serai là.
Oh, je t'aime. Et si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence.
C'était pas très courageux.
Mais ce n'est pas courageux, l'amour.
Tais-toi.
Ça, c'était encore le temps de la cabine téléphonique. Depuis, l'arrivée des téléphones mobiles dans les foyers a accompagné une tendance à l'individualisation des équipements qui était déjà en cours. Dès les années 60, la famille change, hein, d'une institution dominée par la figure du père. On passe à une cellule basée sur les liens affectifs entre conjoints dans laquelle chacun, femme et enfant compris, doit s'épanouir.
Ah oui, il y a eu les tourne-disques personnels, les affiches des idoles qui marquent les territoires des adolescents. C'est ce que les sociologues appellent la culture de la chambre et que l'usage du smartphone est venu renforcer.
Et cette individualisation a été poussée jusqu'au bout du téléphone familial au smartphone personnel pour chaque membre de la famille. On est passé de « tu es où ?» des premières questions des téléphones portables à « tu fais quoi là ?» puisque le smartphone sert à tout, jouer, écrire, monter des vidéos, communiquer sur les réseaux sociaux. Mais non, on n'est pas forcément plus isolé qu'avant parce qu'on est sur son portable, comme l'explique l'experte Anne-Sylvie Farabode, sociologue.
Au bilan, en fait, ce que montrent les travaux des sociologues, c'est que les usages des smartphones, ils accentuent ce qui existe déjà dans les familles. Si les membres sont complices, les échanges avec les mobiles vont nourrir cette complicité. S'il y a des tensions, l'usage des smartphones va plutôt les exacerber. En fait, le smartphone ne change pas grand-chose au cours des choses. il révèle plutôt ce qui existe.
Et tout savoir sur ce MOOC, c'est à retrouver sur franceinter.fr.
Louis-Valentin Lopez, donc, pour la chronique Vie connectée, préparée par Christine Siméon.
C'était le journal d'Yves Decamps, Le Temps demain.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et les prévisions avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Passage d'une perturbation faiblement pluvieuse demain sur un large quart nord-ouest du pays, tandis que les régions de l'est et du sud auront droit à un dimanche ensoleillé avec un risque d'ondées l'après-midi sur les massifs pyrénéens, corses et alpins. Et on remarquera le mistral et la tramontane parfois assez fort l'après-midi vers 70 km par heure. Cette nuit, des pluies faibles vont aborder la Bretagne et gagner progressivement en journée vers la Belgique, le bassin parisien, le centre et le Poitou-Charentes, alors que rapidement à l'arrière, des éclaircies vont revenir par la Bretagne. L'après-midi, le maximum sera pour les régions méridionales avec 28 degrés au sud de la Garonne, 30 à 33 près de la Méditerranée. Il fera 27 à Lyon, 26 à Dijon et Strasbourg, 24 sur la Champagne contre 21 degrés en moyenne sous le temps plus mitigé du quart nord-ouest.